Vous écoutez
RMC. RMC, intégrale Coupe du Monde.
Simon Dutin.
Entouré ce soir d'Elton Mokolo et Younes Belhanda, nos consultants à 48 heures, tout pile, à 47 heures et 59 minutes du coup d'envoi de ce France-Espagne. Il sera donné à 21h heure française, mardi soir, à Arlington, dans le Texas, où nous attend encore Nicolas Pelletier, qui est déjà sur place. On va continuer à parler avec vous trois messieurs de la préparation de cette Roja, la sélection espagnole. Vous nous disiez avant la coupure qu'elle vous paraît encore plus redoutable qu'à l'époque où elle misait sur ce football de possession. Désormais, elle attaque plus facilement, plus opportunément la profondeur. Elle se projette plus rapidement vers l'avant, notamment grâce à ses individualités. Yamal et un Nico Williams qui a peu joué durant cette Coupe du Monde. Alors il faut rappeler quand même que l'Espagne, épouvantail du football mondial, qui n'a plus connu les demi-finales du mondial depuis
2010.
2010.
On a quand même travaillé.
Mais évidemment.
Tu me demandes de travailler, donc on respecte.
ce sont des questions rhétoriques, messieurs, pour des spécialistes comme vous. 2010. Ou encore une fois, j'espère que c'est pas un bon présage, en tout cas pas un mauvais présage pour les Bleus. 2010, elle avait construit quand même sa victoire sur une solidité défensive. Elle n'avait pas encaissé de but en phase éliminatoire. Cet ADN a changé. Il rend cette Espagne encore plus redoutable. On va voir si Christophe, supporter espagnol, est d'accord avec vous, messieurs. Bonsoir, Christophe.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir, Christophe.
Bienvenue sur RMC, Christophe, et merci pour ta patience, mais énormément de choses à dire quand on parle d'une demi-finale de Coupe du Monde et de l'Espagne. Quel est ton avis sur le débat qu'on avait avec Elton, Younes et Nico avant la pub? Est-ce que cette Espagne fait encore plus peur qu'avant?
Alors bon, déjà, ça va être un peu dur de me confronter avec vous, parce que bon, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles je suis assez d'accord quand même. J'ai dit, par Younes et le collègue, je suis désolé, j'ai oublié très
bien. Maurice,
par contre, Elton et Younes, on dit pas mal de choses qui me semblent justes, hein, sur Yamal, sur le collectif espagnol, sur l'éducation espagnole qui a contresens quand Yamal cherche un peu la pique. voilà, après l'Espagne, par rapport à 2024, il y a peut-être une maturité au niveau collectif plus importante, puisque c'est une équipe qui a grandi ensemble depuis quelques années. Par contre, pour la force de frappe offensive, pour moi, Yamal, il monte en puissance, et j'espère que mardi, il va sortir le match du mondial. Hein. C'est ce qu'on espère, nous, les supporters espagnols. Par contre, on n'a pas le pendant à gauche, Nico Williams, rapport à l'Euro 2024. Ouais.
Donc même ça, si Baïda a été très très actif, et il faut se rappeler qu'on cherche beaucoup à attaquer par le côté gauche.
Ouais, mais
gauche,
Baïda, tu sais très bien que c'est un milieu offensif de base.
Moi, il m'a beaucoup surpris. Justement,
ouais, mais dans ce rôle excentré, par exemple contre le Portugal, moi, j'avais pas forcément beaucoup aimé. Même chose sur le dernier match contre la Belgique. Mais là, on a le sentiment que le pari Nico Williams, qui souffre d'une pubalgie et qui a été préservé jusqu'au bout de la compétition, c'est précisément pour cette dernière semaine. Parce que quand on sait que sur la Ligue des Nations, Nico Williams, ça avait fait énormément de mal à l'équipe de France. Moi, j'ai dans l'idée que de La Fuente, il va sortir la carte Nico Williams d'entrée de jeu.
On va poser la question à Nicolas Pelletier, qui a vu l'Espagne s'entraîner. Est-ce qu'il a toujours ce gros strap sur une cuisse, Nico Williams?
Pas ce matin quand on l'a vu s'entraîner lors des 15 premières minutes, mais il faudra voir dans les prochaines heures. Il y a des vidéos qui vont sortir de l'entraînement entier de l'équipe espagnole pour voir s'il a toujours. Mais là, je regarde les vidéos que j'ai fait ce matin et il n'avait plus le strap sur ce côté de sa jambe. Donc on verra dans les prochaines heures si son état de santé est toujours moyen ou s'il est en évolution, mais en tout cas il n'avait pas le strap ce matin. Je suis en train de regarder les vidéos quand vous étiez en train d'en parler et il n'avait pas le strap.
Younes, la pubalgie, il n'y a pas bien pire quand on court contre la montre comme la sélection espagnole, non?
La pubalgie, pour moi, c'est la pire des blessures. Moi, j'avais eu un début en début d'année, j'ai eu un début de pubalgie et je peux vous dire que ça fait très mal, ça empêche beaucoup de mouvements, les accélérations sur les frappes, sur les passes, vous êtes diminué. Donc j'espère que pour lui et pour l'Espagne, ça va mieux. Mais on sait très bien qu'une pubalgie, c'est très très dur à soigner. Tu passes parfois par la case chirurgicale. On l'a vu nous avec Naïf Aguerre avec le Maroc où carrément il a pas pu jouer ce mondial. Donc voilà, c'est très compliqué, dur d'être à 100% avec une pubalgie.
Christophe, toujours au 32-16 supporters espagnols. Alors deux questions en une, Christophe, oui. Tu vas nous expliquer cette histoire de supporters espagnols alors que tu résides à Grenoble dans l'Isère et que j'entends pas.
Ça veut dire quoi ça?
Je n'ai pas décidé d'accent.
Franchise parce que j'ai même quelques amis qui
commercial dans l'Isère sans accent espagnol. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Mais né de père espagnol, né en Espagne, de grands-parents espagnols, voilà, une mère française, mais et qui n'aimait pas le foot. Donc, au niveau de la nationalité, j'ai choisi l'Espagne.
D'accord. Donc pour les France-Espagne, toi, tu roules toujours avec l'Espagne depuis l'enfance.
Depuis très très longtemps. Ouais. Voilà. Après, tout en conservant quand même pour la France quand même une partie de mon cœur. Je ne veux pas vous raconter une anecdote. J'ai un cousin qui est pareil, qui a le même sang, mais qui est pour la France. Voilà. Et il m'a dit, quoi qu'il arrive, je suis en finale mardi. Je lui dis, oui, toi, moi, je n'ai qu'un cœur et toi, tu as deux poumons. Voilà.
C'est pratique d'avoir une équipe de secours.
Mais pour
surtout
revenir
quand
juste à ce que vous disiez sur Nico Williams, par rapport, je suis pas sûr qu'il le fasse démarrer, ça m'étonnerait quand même, parce que je pense qu'il vaut mieux le garder sur une cartouche, si l'Espagne doit revenir au score ou quoi que ce soit sur une dernière demi-heure, que le faire démarrer d'entrée et que ça puisse peut-être pas tenir. Il a quand même joué deux fois un quart d'heure, donc depuis le début de la Coupe du Monde, donc je pense pas qu'il démarre.
C'est ce que je demandais aux journalistes espagnols ce matin lorsqu'on échangeait autour de l'entraînement. Eux aussi n'étaient pas tous d'accord à ce niveau-là. Ils ne savaient pas si Nico Williams allait démarrer cette rencontre face à l'équipe de France. Certains pensaient, comme Christophe, que peut-être rentrer en cours de jeu, mais ils étaient pas tous d'accord sur ce point-là. Autre petit point aussi, parce qu'on parle beaucoup des joueurs espagnols, mais je peux vous dire que côté espagnol et côté suiveur espagnol, on s'inquiète dans le sens un peu inquiet du terme, c'est-à-dire qu'on s'inquiète fortement de Kylian Mbappé et de ses performances depuis le début du mondial. En plus, joueur du Real Madrid, bien évidemment, on s'intéresse encore plus à Kylian Mbappé, et il y a de nombreux suiveurs espagnols qui se demandent comment le visage peut être aussi différent entre Kylian Mbappé du Real Madrid et Kylian Mbappé en sélection nationale. Donc c'était un peu le sujet du jour autour de l'équipe espagnole avant d'affronter l'équipe de France.
Mais je crois, mon cher Nico, qu'on se pose la question aussi pour Jude Bellingham, aussi pour Vinicius, et qu'on a du mal à comprendre comment ces trois-là n'arrivent pas à s'entendre au Real.
Nico, avec cette information, dit quelque chose que Younes avait soulevé tout à l'heure quand on parlait de l'équipe de France et de ses individualités. Moi, il y a une question fondamentale. Est-ce que l'Espagne, dans son jeu, va être conditionnée par la figure de Kylian Mbappé? Ce que je veux dire par là...
Tu vois ce que tu dis, Elton. Il y a un journaliste qui me disait, est-ce que Luis de la Fuente va faire... Et le journaliste me disait, ça marche jamais, ces plans-là. Mais est-ce que Luis de la Fuente va faire un plan anti-Mbappé? Oui. Et il a raison, ça marche très rarement, les plans où tu vises à un joueur et on dit à chaque fois, c'est un peu un truc médiatique, ça, les plans anti-Mbappé.
Oui, c'est ça.
Et il se posait cette question-là, et tu vois, ça rejoint un peu ce que tu dis, Elton. Où est-ce qu'il va gérer totalement, normalement, son match, comme face à la Belgique, comme face au Portugal? Donc c'était un peu aussi la question des suiveurs espagnols.
Oui, parce que c'est pas du basket où tu fais de l'individuel, de la zone. Si t'essayes pas d'arrêter les meilleurs joueurs adverses,
ça va être quelque chose en particulier. Est-ce qu'on va vouloir être davantage sur de la possession défensive en se disant que, voilà, faut éviter les contre-attaques de l'équipe de France? Est-ce qu'on va vouloir déployer le jeu, notamment à l'intérieur pour faire mal au double pivot? Moi, tout ça, c'est que les tactiques m'intéressent par rapport à cette idée. Aujourd'hui, on a l'équipe de France des quatre offensifs qui peuvent conditionner la feuille de route de l'Espagnol.
Bon, et on verra bien, évidemment, à mesure qu'on approchera de ce coup d'envoi, quelles sont les dernières tendances au niveau de ce que concocte de la Fuente pour affronter l'Espagne, le coup d'envoi 21h heure française mardi soir. Merci beaucoup, Nicolas Pelletier en direct de Dallas. Tu vas voir de la visite bientôt, hein. Les Bleus sont en vol et Valentin Germain est en salle d'embarquement. d'ici là, on ne leur manquera rien grâce à toi.
Et on en saura peut-être un peu plus sur l'équipe espagnole, parce que demain il y a une zone mixte avec deux joueurs espagnols, donc on essaiera de poser des questions et au moins Elton aura toutes ses réponses.
Moi j'attends que ça, Nico. Moi j'ai besoin. Moi d'habitude quand je regarde du football, je suis inquiet. J'ai besoin d'avoir toutes les informations possibles pour pouvoir profiter.
T'as raison.
Ouais, c'est ça les grands reporters. Ils devancent les questions des encore man. Merci beaucoup Nico. On te retrouve très rapidement sur l'antenne de RMC. Nicolas Pelletier, comme la team RMC, au plus près des Bleus et de l'Aurora, en l'occurrence du côté de Dallas, où se tiendra cette demi-finale. Je remercie Christophe également d'être venu au 32-16. Christophe qui nous a rassuré, il est sûr d'être en finale, lui, le Français supporter de l'Espagne. Pas de plan anti-Younes Belanda, c'est impossible. Non. C'est impossible. Il était impossible à arrêter sur le terrain, ça le motive même encore plus. Pas de plan anti-Elton Mokolo non plus.
Moi aussi, à Picharenton, quand j'étais en poussin, c'était un peu compliqué.
Les adversaires s'en souviennent, ils s'en mordent les doigts.
Si tu veux, je jouais libéro, donc c'était très difficile d'avoir un plan anti-Elton.
Ah là là, on pouvait jouer sur la vitesse, l'évitement, mais rien ne marchait.
Pour revenir un peu plus sérieusement sur le plan anti-Mbappé, l'Espagne, ce qu'ils sont capables de faire, c'est de monopoliser le ballon. Et en fait, c'est à la perte de ballon, le contre-pressing, où ils sont très forts, l'Espagne.
C'est ça.
Ils arrivent à harceler. Et c'est ça le plan anti-Mbappé, c'est de couper ce lien entre le milieu et l'attaque. S'ils arrivent à faire ça, ils pourront s'en sortir. Mais si, au milieu de terrain, ils contrent pas nos milieux de terrain, les milieux de terrain de la France, et de couper le lien entre Olise ou Rabiot, Olise, Mbappé, Dembélé, Doué s'il démarre, il aime bien se mettre à l'intérieur comme un milieu offensif. Donc ça va être très dur pour l'Espagne s'il coupe pas ce lien et récupère très vite le ballon à la perte du ballon.
Et c'est vrai que arrive là ce qui est pour moi l'une des marges de progression de l'équipe de France. L'équipe de France, pour moi, c'est une équipe qui fait pas assez mal par la passe. C'est une équipe qui fait davantage mal par la percussion, par sa capacité en un contre un. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans un avis tranché, de faire mal. Mais sur la passe, notamment pouvoir éliminer des joueurs, ça va être fondamental pour justement faire reculer le bloc espagnol.
Et heureusement, d'ailleurs, du coup, que nos individualités performent autant. Parce que je le disais tout à l'heure, vous aviez l'air d'être d'accord, c'est quand même la Coupe du Monde des joueurs, plus que celle du jeu et des circuits de passe. Et en effet, mis à part l'Espagne, il y a quand même peu de sélections qui nous enchantent par les circuits de passe et les solutions.
Là, c'est deux approches qui sont totalement différentes.
Oui, mais c'est un peu le foot d'aujourd'hui, la tendance qu'elle prend. Mais en tout cas, voilà, des raisons d'espérer, alors que vous nous avez quand même bien fait flipper, messieurs, en expertisant les forces de cette nouvelle Espagne.
Après, ils sont champions d'Europe aussi.
Tu
vois, ils ont la ceinture quand même.
Je trouve qu'au cours des rencontres de cette Coupe du Monde, elle a laissé, je trouve, par instant seulement, plus d'espoir à certains de ses adversaires que par le passé où elle semblait quand même indéboulonnable. 21h13 en compagnie d'Elton Mokolo et Younes Belanda sur RMC. On va se demander, messieurs, si on n'a pas le dernier carré rêvé de cette Coupe du Monde. France, Argentine, Espagne, Angleterre, les quatre premières nations au classement FIFA en demi-finale du Mondial. Ce n'était encore jamais arrivé dans l'histoire depuis que le classement FIFA existe. Il existe depuis, tiens, allez, j'aime bien vous, depuis 1992, donc c'est.
J'allais dire 90.
Voilà.
Mais j'ai deux ans trop tôt.
Voilà. Mais moi, je m'étais dit pareil avant d'écrire mes textes. Alors, est-ce que, pour autant, c'est le signe que les quatre meilleures équipes actuelles vont se disputer le trophée? Est-ce que, messieurs, tout simplement, c'est, je le disais, le dernier carré rêvé pour cette Coupe du Monde? Ou est-ce qu'il y a une équipe que vous auriez aimé voir, qui aurait pu rendre ce tableau des demi-finales encore plus alléchant, encore plus excitant, encore plus merveilleux?
Non, moi je pense que c'est le dernier carré rêvé, et globalement c'est par rapport au football de sélection qui est le contrôle continu, pas seulement sur la Coupe du Monde mais sur plusieurs mois depuis 2024, c'est les quatre meilleures formations. De toute façon, ça ne ment pas. Quand tu regardes l'Espagne, ils ont gagné la Ligue des Nations en 2023, ils ont été en finale en 2025, ils ont remporté l'Euro 2024, ils étaient demi-finalistes à l'Euro 2021. L'Angleterre a fait deux fois finale d'Euro et est en demi-finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois après 2018. L'équipe de France, on la présente pas, on la connaît. Et l'Argentine, on la présente pas, on la connaît. C'est une équipe qui a quand même remporté trois fois de suite une compétition. C'est les meilleures équipes et ça ne ment pas. Et en plus, t'as la FIFA qui a tout fait pour qu'ils ne se rencontrent pas rapidement, parce que t'as eu un point de règlement qui a évolué avec la Coupe du Monde à 48. les têtes de série, les quatre têtes de série ne pouvaient pas s'affronter avant les demi-finales. Et comme par hasard, t'as la tête de série numéro 1, t'as la tête de série numéro 2, t'as la tête de série numéro 3 et t'as la tête de série numéro 4 qui sont présentes. Donc forcément, avec l'aspect un match en plus, phase éliminatoire, faut pas oublier que le tournoi est extrêmement long et que ça autorise une montée en puissance pour toutes ces formations, pour les grandes formations. Aujourd'hui, Simon, il y a une super élite dans la Coupe du Monde. On a la super élite de football de club. Et là, moi, j'ai le sentiment que c'est un point de bascule. On a une super élite dans le football de section et que là, ça s'est marqué. Et je vais même te dire quelque chose. Entre le top 4 et le top 8, il y a une différence qui est quand même conséquente. Oui,
alors, si tu me demandes si j'imagine que ça fait plaisir à la FIFA et à Gianni Infantino.
J'ai pas dit ça.
Moi, la question, je la pose parce que.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit pour le casting, vaut mieux avoir ces quatre équipes.
Ça, évidemment.
Ils ont été poussés un petit peu quand même.
Ouais. Hein. Évidemment que la FIFA, elle boit du petit lait. Et tiens, d'ailleurs, un Gianni Infantino qui a. Évidemment, sans surprise aujourd'hui, déclarer qu'il réfléchissait à rajouter 16 équipes pour l'édition 2030 et donc passer à 64. On sait que ce projet verra le jour quoi qu'il arrive. Donc là, il prend des petites pincettes, mais il profite de l'euphorie ambiante. Younes, justement, ça fait plaisir à la FIFA. Est-ce que toi, ça te fait plaisir de voir ces quatre sélections en demi-finale? Est-ce que pour toi, ce sont les quatre meilleures équipes de ce mondial?
Alors ça me fait pas plaisir parce que le Maroc.
Oui,
pas. J'aurais aimé les voir dans l'autre de l'autre côté, ne pas tomber contre la France. Parce que sur le début de tournoi qu'ils avaient fait, ils étaient cohérents et une fois qu'ils sont arrivés contre la France, on a vu la différence de niveau. Alors la France, bien sûr que évidemment, elle fait partie de ce carré final. Tu as l'Argentine qui est l'ancienne les derniers champions en titre. L'Angleterre, pareil, qui est finaliste, et l'Espagne qui est champion d'Europe. Donc pour moi, on peut pas miser sur le Brésil parce que le Brésil, depuis quelques années, c'est le néant complet au niveau que ce soit de la Copa América, de la Coupe du Monde, c'est vraiment faible. Donc je me dis que même si c'est pas flamboyant au niveau Argentine, Angleterre. Mais il y avait pas mieux, je dirais.
France 1, Argentine 2, Espagne 3, Angleterre 4, ouais, c'est le classement FIFA actuel.
Ouais.
Mais basé sur un algorithme de calcul qui.
Enfin, un algorithme.
L'Argentine a été aidée un petit peu hier. Hein.
L'algorithme, il a bon dos. C'est des équipes qui vont quasiment au bout à chaque fois.
Oui, d'accord, mais c'est que si on relève le caractère historique là de cet état de fait, c'est parce que lorsqu'on compare, regardez 2022, Argentine Croatie France Maroc, Argentine 3 Croatie 12, France 4 Maroc 22.
Oui.
En 2018, France Belgique, France 7 Belgique 3, Croatie 20 Angleterre 12. 2014, Brésil 3, Allemagne 2. Là, il y avait quand même une densité. Argentine 5, Pays-Bas 15. C'est ce qui a rapproché quand même le plus de la situation actuelle. Pour les situations un petit peu plus inhabituelles, 2006, Allemagne 19, Italie 13, et Portugal 7, France 8. Et en 2002, alors évidemment, Brésil 1 face à la Turquie qui était 22e à l'époque. Allemagne 11 seulement, j'ai été très surpris, face à la Corée du Sud. 40e. Comme quoi, tu dis c'est des équipes qui vont quasiment au bout à chaque fois, Elton.
Non, mais sur les dernières années. Et au final, je sais que ça va pas plaire notamment à un certain public parce que la Coupe du Monde, t'as quand même envie d'avoir des surprises, t'as quand même envie d'avoir de l'aléatoire. Et moi, je suis très content parce que ça rehausse le football de sélection, ça récompense le football de sélection où c'est les meilleurs qui travaillent le mieux. C'est des équipes qui ont des résultats depuis plusieurs années. Même l'Angleterre qui ne gagne pas forcément un titre, mais c'est des équipes qui sont très souvent dans le dernier carré, qui vont en finale de compétition, et ça se retrouve sur la Coupe du Monde 2026. Est-ce que ça a vocation à durer et à se perpétuer dans le temps à travers l'Euro 2028 ou sur la Coupe du Monde 2030? Ça, je sais pas, je suis pas tranché, mais aujourd'hui, sur la Coupe du Monde 2026, c'était pour moi une situation qui était très prévisible.
Younes, c'est évidemment le cas du Maroc mis à part, c'est bon pour le foot que les tauliers du classement FIFA se disputent le trophée mondial.
Après tout est fait pour que ces équipes-là se retrouvent dans le dernier carré final parce qu'ils se rencontrent jamais. Donc c'est ça, oui. Si tu mettais en début de tournoi un tirage au sort aléatoire, eh ben tu verrais peut-être une équipe africaine, une plus d'équipes sud-américaines aller plus loin. Mais en partant du principe où les gros sont avantagés, ben tu tomberas tout le temps dans le dernier carré ou souvent avec les mêmes équipes.
Après, c'est des équipes en plus qui, la France et l'Argentine ont terminé à 9 points, l'Espagne et l'Angleterre ont terminé qu'à 7 points. Mais sur le premier tour, ils ont absolument pas été gênés. Et même sur la phase éliminatoire, bon, t'as l'Angleterre qui est passée en prolongation contre la Norvège, t'as l'Argentine à deux reprises contre le Cap-Vert et donc contre la Suisse. Et sinon, pour le reste, ils ont pas été forcément été bousculés sur tous les matchs.
Lequel des quatre demi-finalistes a le moins mériter sa place au regard des performances ou alors de l'adversité rencontrée selon vous?
Allez, je vais dire celui qui a le moins mérité, je vais dire Argentine.
Enfin, le moins mérité, c'est un peu péjoratif.
Le moins mérité, c'est un peu péjoratif.
Sur son parcours.
Oui, voilà, qui a eu le parcours le moins compliqué.
Le moins galéré, quoi.
Là, qui a le plus galéré. Ouais, tu peux dire qui a le plus galéré. Ouais. Tu peux.
Ouais, non, oui, enfin, qui a eu du. Oui, on m'a
dit. L'Argentine, l'Espagne, parce que le Portugal n'a pas été flamboyant. Ouais, je mettrai les deux, l'Espagne et l'Argentine.
Ouais, je vois Elton pensif.
Changement. Je vais faire intervenir le VAR, je vais mettre l'Angleterre.
L'Angleterre.
Je vais mettre l'Angleterre.
Bon, c'est bien.
Je vais mettre l'Angleterre.
Aucun de vous n'a cité la France.
France.
Si on peut les enlever un par un.
La France, s'il y a un jury, s'il y a un conseil de classe, c'est quasiment félicitations.
Ouais. C'est la période en plus.
C'est la période. Bah, justement.
Voilà, avec les
comptes. Même si j'ai jamais eu félicitations, personne.
Moi non plus, je crois. Mais on n'avait pas les comptes rendus à l'époque. Bon, voilà.
Et tu peux mettre n'importe quelle équipe, ils vont rouler sur tout le monde.
Voilà les prédictions qu'on aime entendre à moins de 48 heures cette fois-ci. Du coup d'envoi de cette demi-finale France-Espagne en jeu, une place en finale de la Coupe du Monde 2026.